La Torah expliquée. Un regard juif sur la Bible. Une émission proposée par le magazine Le Berger d'Israël.
Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La Torah expliquée. Je vous en rappelle rapidement le principe. Benjamin Wagner, journaliste protestant, pose des questions sur la Torah auxquelles répond Guy Attia, directeur du Berger d'Israël.
Bonjour Guy.
Bonjour.
On va s'intéresser aujourd'hui à un texte de la Genèse. On va y passer un petit peu de temps sur ce texte. Il s'agit de Genèse 22. On commence aujourd'hui avec les versets 1 et 2. Je vais peut-être vous laisser les lire pour commencer.
Oui, alors Genèse 22, versets 1 et 2. « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham !» Et il répondit « Me voici !» Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Et je m'arrête ici dans la lecture, quoique pour être tout à fait complet, il faudrait lire l'ensemble des 19 versets composant ce récit, qui est un récit extrêmement particulier, complexe, difficile à comprendre pour nous, hommes du 21e siècle. Toutefois, avec ces deux premiers versets, en tout cas, on peut déjà être bouleversé par cette demande incroyable de Dieu.
Oui, alors ici, clairement, on nous indique que Dieu met Abraham à l'épreuve, presque au défi, mais quand même, ça paraît totalement fou, pour ne pas dire complètement déraisonnable, d'offrir son fils unique, en holocauste. Qu'est-ce que ça peut bien avoir comme signification ?
Alors, en effet, la demande de Dieu semble dépasser la raison. Et quand on connaît la suite du récit, eh bien encore plus, parce que offrir son fils en holocauste signifiait rien de moins que d'égorger son fils, puis de le brûler entièrement au feu. Une épreuve que, évidemment, on ne souhaiterait à personne. Hein. Ça va de soi. Et la demande de Dieu a dû contrarier Abraham au plus haut point, si l'on reconnaît que l'une de ses motivations, justement, à quitter la Mésopotamie en son temps, était sans doute de fuir l'horreur des sacrifices humains. Or, voilà que Dieu lui demande justement de sacrifier son fils. Et par ailleurs, la loi elle-même condamnait de telles pratiques, dans Deutéronome 18, verset 10, entre autres, on peut lire, « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui ait recours à des techniques occultes ou de la sorcellerie. » Donc, personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Alors, que comprendre en cette circonstance ? Le texte biblique reste très sobre, et peut-être même un peu trop à notre goût. Ou alors, par l'absence de détails, s'agit-il tout simplement de traduire la foi des acteurs en présence ? Mais quand même, on peut être frustré de l'absence de toute expression de sentiment des uns ou des autres. Et à nous de deviner peut-être ce qui se passe dans la tête des uns et des autres, un exercice extrêmement difficile au demeurant. La demande divine est simple, précise et n'attend qu'une obéissance à la lettre qu'il semble difficile d'écarter. Il n'y a pas moyen d'interpréter les choses de façon tellement différente. Nous savons certes qu'il s'agit d'une épreuve, mais Abraham ne le sait pas encore, lui. Pour lui, c'est d'abord l'incompréhension qui domine. Ceci étant, nous devons aller plus loin que la seule surface du texte. La première chose que l'on comprend dans la demande divine, au-delà de l'horreur, c'est la désignation de la victime. Ton fils, ton unique. L'expression résonne évidemment avec la singularité de ce fils unique dont l'Évangile parle en évoquant Yeshua comme fils unique de Dieu qui vient s'offrir en sacrifice pour le salut de l'humanité. Mais cela, c'est une constatation ou une suggestion que l'on peut faire a posteriori. Le chrétien sera sans doute sensible à cette liaison possible, voire même probable. Et il lira certainement le récit biblique prophétiquement comme une anticipation de ce que Dieu accomplira plus tard avec Yeshua. Mais notre postulat de départ est le texte de la Genèse et non le récit évangélique, même si la proposition est alléchante et peut-être même tout à fait pertinente. Il s'agit moins de se demander en quoi le récit évangélique semble correspondre à l'expérience midrashique d'Abraham que l'inverse. à savoir en quoi l'épreuve d'Abraham a un caractère prophétique et messianique et à quel moment celle-ci s'accomplit en la personne de Yeshua.
Alors justement, en quoi la demande divine est-elle si singulière et si propre à nous interpeller ? En quoi toute cette histoire comporte-t-elle une dimension prophétique ?
Alors notre récit est bref, très concis, et chaque mot ou presque a son importance. Dans nos versions françaises, la demande de Dieu à Abraham semble assez neutre, voire franchement plutôt froide. À la différence des ordres précédents de Dieu, l'injonction divine comporte ici un petit mot qui fait une énorme différence. Vayomer kach na et bincha, littéralement, et il dit « prends, s'il te plaît, ou je t'en prie, ton fils ». Alors, que comprendre d'une telle injonction ? Abraham ne serait-il pas contraint d'obéir quelque part dans cette demande de Dieu ? Dieu saisirait-il alors la portée effective et émotionnelle d'une telle demande qu'il en arrondirait peut-être en quelque sorte les angles ? À moins que la demande divine ne soit pas un ordre froid et inhumain, mais au contraire une réponse à l'amour d'Abraham pour son Créateur. À moins aussi peut-être qu'il s'y cache aussi le désir divin de communiquer à Abraham le montant de son amour pour l'humanité qui le conduira, mais bien plus tard, à offrir aussi son Fils unique, son unique, pour la rédemption du monde. Les idées qu'il nous faut surtout retenir sont les suivantes. Isaac est d'abord clairement désigné nominativement. Isaac est considéré par Dieu comme fils unique d'Abraham et donc aussi comme fils premier-né. Et c'est sans doute ici un point capital qu'il nous faut retenir pour notre compréhension. Mais je vais y revenir. Dieu sait qu'Abraham aime son fils Isaac. Ce sacrifice, donc, lui sera cher et même extrêmement cher. Enfin, l'obéissance d'Abraham est moins une réponse servile, une sorte d'obligation contraignante, qu'une action volontaire en réponse à l'amour de Dieu, du Dieu souverain. Enfin, l'expression qui suit, qu'on a au verset 2, « Va-t'en dans le pays de Moria », fait en quelque sorte un peu écho à la première parole de la première épreuve qu'Abraham ait eu à subir en Genèse 12, verset 1, quand Dieu lui dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie ». Le fameux « Lech Lecha » se répète ici en quelque sorte une seconde fois. Et si la première fois Abraham était invité à quitter son pays et sa famille pour un lieu qu'il ne connaissait pas, eh bien ici il en va différemment. Le lieu lui est clairement désigné et il semble déjà peut-être même le connaître. Il s'agit d'un pays qu'Abraham a déjà certainement foulé. Et c'est par la suite que la région de Jérusalem y est clairement identifiée. Or, il est vrai qu'Abraham, dans les épisodes de la guerre contre les rois qu'on a vu il y a 15 jours, par exemple, et surtout de sa rencontre avec Melchisédek, a traversé sans doute la région ainsi nommée en Genèse chapitre 14. Le mot « Moria », d'ailleurs, contient par ailleurs le nom de Dieu. Il se décompose en effet de deux termes, « Mora », qui signifie « enseignement », et Ia, qui désigne Dieu. Et on pourrait donc traduire le lieu comme étant le lieu où Dieu enseigne. Et la tradition juive désigne également ce lieu comme l'emplacement où sera édifié le temple de Jérusalem, le lieu par excellence, finalement, de la rencontre avec Dieu. Pour les commentateurs, juifs comme chrétiens d'ailleurs, le lieu est hautement symbolique. Ce lieu est le lieu même où Dieu accomplit la rédemption. Le temple pour les uns, le lieu du sacrifice de Yeshua pour les autres.
On a donc affaire à un lieu hautement symbolique. Est-ce que Isaac ne serait pas lui aussi une image symbolique dans ce récit ?
Alors, quoique le récit soit bien réel, concret, chaque personnage et chaque élément du récit a son importance. Le fils unique est sans aucun doute possible Isaac et non pas Ismaël. Implicitement, Dieu désigne la légitimité d'Isaac comme le fils de l'alliance de la promesse. Mais ce n'est pas tout. Contrairement aux apparences ou aux idées reçues, Isaac n'est pas un jeune homme au moment de cette épreuve. La tradition juive, s'appuyant sur le récit, la suite du récit, au chapitre 23, avec la mort de Sarah, donc la maman de Isaac, et ce à l'âge de 127 ans, eh bien, la tradition juive en déduit qu'Isaac avait probablement autour de 37 ans au moment de l'épreuve proposée Abraham. En effet, même si en hébreu le terme Nahar, désignant Isaac, peut signifier jeune homme, Abraham a très certainement dépassé les 100 ans et de son point de vue, son fils est en effet quelque part un jeune homme. Toujours est-il que, selon la tradition juive, Isaac a au moins 30 ans, et sans doute plus près des 37 ans, âge qu'il avait au moment de la mort de Sarah, donc sa mère.
Alors, est-ce qu'on peut considérer cette notion de l'âge comme quelque chose d'anecdotique, ou est-ce qu'il y a là aussi une clé, une indication ?
Voilà, en général, donc, dans cette discussion autour de l'âge d'Isaac au moment de cette épreuve, on trouve par exemple dans les peintures du Moyen-Âge, je crois, et un peu plus tard, souvent dépeint cet épisode, l'épreuve d'Isaac, d'Abraham avec Isaac, comme Isaac ayant peut-être 13, 14, 15 ans, quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est peut-être pas si anecdotique que cela, parce que donc, comme je l'évoquais, la tradition juive pense au contraire que Isaac avait un âge déjà un petit peu plus avancé, au moins entre 30 et 37 ans. Et on peut dire que dans la perspective prophétique et dans la relation que l'on peut y établir avec le Messie des Évangiles, la personne de Yeshua, eh bien justement, Yeshua a donné sa vie et mort, a eu aussi cette épreuve, à un âge d'autour de 30-35 ans, par là. Et donc, on peut considérer un peu cette correspondance comme étant un point important qui nous donne un indice de cette intention de Dieu à travers l'épreuve qui est proposée à Abraham.
Il y a aussi une autre idée qui s'en dégage, c'est qu'à cet âge-là, s'il l'avait voulu, Isaac aurait pu parfaitement refuser, tenir tête à son père. Hein, c'est un homme costaud à cet âge-là. Et pourtant, non, on a l'impression qu'il l'accepte du coup pleinement et qu'il comprend même ce geste de la part de son père.
Alors disons que c'est quelque part assez compliqué, assez difficile d'imaginer Abraham usant de la force pour imposer à son fils, quel que puisse être d'ailleurs son âge, de lui imposer d'être sacrifié comme ça, sans qu'il ait peut-être même son mot à dire. Et on le verra d'ailleurs dans les versets qui suivent. Mais il est clair que ce qui ne s'est pas passé, c'est que Abraham ne s'est pas mis d'un coup à se dire « Tiens, je vais ficeler mon fils, quoi qu'il dise », et de le forcer finalement à monter sur l'autel et ensuite de l'égorger pour le brûler ensuite. Ça, c'est pas ça qui s'est passé et on a du mal à l'imaginer, sachant que l'émotion, même si elle n'est pas ici clairement présente, eh bien, on ne peut pas imaginer Abraham agir dans ce sens. Et on le verra dans les versets qui suivent. Je veux dire, c'est une autre démarche, et surtout dans la perspective prophétique, Isaac est bel et bien consentant quelque part. Il l'accepte et il va avec son père vers le lieu du sacrifice.
Merci à vous deux, Guy et Benjamin. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de La Torah expliquée. En attendant, chers auditeurs, rendez-vous sur le site internet www.lebergerdisrael.org pour retrouver les thèmes développés dans cette émission.
C'était La Torah expliquée. Une émission qui vous a été présentée par le magazine Le Berger d'Israël.